Voici le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1991. Au programme, l'interdiction de lancer des nains. Un fou qui traverse le Pacifique à la rame, l'épidémie de vaches folles qui débarque en France, Gainsbourg et Montand qui tirent leur révérence, et la découverte d'une usine d'ecstasy.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
Figurez-vous que durant l'été 1991, une attraction est à la mode dans les boîtes de nuit françaises. Le lancer de nains. C'est un concept importé d'Australie. Il s'agit de lancer le plus loin possible et sans élan un nain accoutré comme un footballeur américain, avec casque de protection et genouillère. C'est l'ancien manager de Lolo Ferrari qui, cet été-là, a décidé de faire le tour des boîtes de nuit françaises avec ce jeu idiot.
Eh bien, bravo, monsieur, vous établissez notre nouveau record, 3,92 m, qui revient donc à la ville de Carpentras.
Trois mois après ce record national, le show doit passer par une boîte de nuit de Morsan-sur-Orge dans l'Essonne. Mais le maire communiste s'y oppose. C'est une question de dignité humaine et il est soutenu par l'association des gens de petite taille et surtout par la comédienne très populaire Mimi Mathy.
Il y a un mot, de toute façon, c'est tout de suite stop, 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 parce que c'est n'importe quoi. D'une anomalie physique, ils ont fait un spectacle en jouant sur le côté négatif et sur le côté grotesque, mais qu'ils aillent au bout. Je crois qu'il faut vraiment réagir très fort la compte, parce qu'on ferait ça à des chiens ou à des palombes, il y aurait déjà 15 associations qui auraient mis le haut là, et il y aura déjà un décret de passé. Là, c'est même pas pensable que ça continue et que ça dure. Il faut que ce soit interdit dans les jours qui viennent. Moi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et d'essayer de le faire de la façon la plus jolie possible, la façon moins grotesque possible. Donc c'est pas pour qu'un petit rigolo vienne foutre tout ça en l'air en faisant piétiner la morale et le bien-être de chacun. C'est absolument impensable que ça continue.
L'affaire fait un pataquès national. Et le producteur du show répond à la polémique. Le nain artiste à qui il a fait appel s'appelle Manuel Wackenheim. Il a 24 ans. Et il est d'accord.
C'est un show, il faut le voir sous l'aspect spectacle. Vous savez qu'il existe des spectacles de catch avec des nains, il existe des nains qui tournent des films pornographiques. Manuel est un homme de petite taille, tout à fait constitué normalement. Son seul handicap est sa taille.
Voilà, il est là, c'est un ami. Je vous demandais de lui faire une ovation. Ouais. Mr. Skyler.
Je lance quelque chose pour me l'interdire parce qu'il y a des personnes qui sont aussi petits que moi qui sont concernées. Mais je vois pas pourquoi, c'est pas eux qu'on balance, c'est moi.
Et le principal concerné, Manuel Wackenheim, qu'est-ce qu'il pense de tout ça?
Vous ne vous sentez pas humilié quand vous vous faites jeter sur un tapis par quelqu'un d'autre?
Ah bah non, pas du tout, non. C'est mon spectacle et j'aime faire ce que je fais, quoi.
En fait, ces spectacles ont surtout fait de vous une vedette alors qu'avant vous étiez finalement un nain comme un autre.
Voilà, tout à fait, voilà, c'est ça.
Le 26 novembre 1991, le sujet est évoqué au plus haut sommet de l'État. Comme le confirme le ministre de l'Intérieur de l'époque, Philippe Marchand.
Il s'agit d'une pratique dégradante. Hier, à la sortie du Conseil des ministres, Philippe Marchand était clair. Le lancer de nains doit être interdit, conformément à l'article 3 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme. Tous les préfets devront donc faire appliquer cette directive.
Résultat, avec cette interdiction, eh bien le nain Manuel Wackenheim pointe au chômage. Et dans une interview au journal Libération, il lance « Bah les putes gagnent bien leur vie avec leur cul. Pourquoi est-ce que je pourrais pas être lancé en France, hein ? Elle est où la liberté d'expression ?» Et dans la foulée, son avocat, maître Poteau, conteste le fondement judiciaire de cette interdiction.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme me semble un peu un fourre-tout. Parce qu'en fait, l'article 3, je crois savoir qu'il dit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines inhumaines ou dégradantes. Je ne pense pas que le lancer de nains soit une torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant.
Vous pensez que c'est une pratique normale?
C'est une pratique normale, c'est un spectacle sportif. Toutes les mesures de sécurité ont été prises, puisqu'en fait, il est lancé en longueur sur 1 à 2 mètres, il tombe sur un tapis de mousse. Le ministre de l'Intérieur devient bien délicat aujourd'hui.
L'affaire finit devant les tribunaux. Ça dure 4 ans. jusqu'à un arrêt du Conseil d'État qui finit par interdire le lancer de nains au nom de la dignité de la personne humaine et du trouble à l'ordre public. Manuel tentera un ultime recours devant la Commission européenne pour avoir le droit de travailler et il sera débouté. Et à ce jour, lancer des nains est toujours interdit en France.
Sans la connaissance de son passé et de sa culture est comme un arbre sans racine. Well, viens tonton David et dis-le. Yeah. Les règles intelligentes pour contrôler la discothèque. Hey hey. L'endemain c'est comment.
Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les danses sales. Avertissement pour tous les sans-voix dans les parages, ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. David au micro sur le rythme, très très relax. Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je chatte. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. Prends garde à la tentation car grands sont les pouvoirs du mal. Tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rendent la vie couchale. Émancipe-toi, c'est comme moi tu es là. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Dédicace pour mes ayants grand V. Autour d'un drapeau il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que l'oppresseur a fait couler, le vert pour l'Afrique, man, et ses forêts. Jaune pour tout l'or qui nous ont volé. Non, parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncé. Symbole d'unité africaine, de solidarité. Noir et blanc, en son faux dans ses tontons, David vient dédier sa mort.
Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir.
C'était c'est peuple du monde de tonton David en 1991.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
En 1991, 11 ans après avoir été le premier navigateur à traverser l'Atlantique à la rame et en solitaire, Gérard d'Aboville se lance un nouveau défi. Cette fois, il veut traverser l'océan Pacifique. Un périple de 10 200 km entre le Japon et la Californie. Le navigateur aventurier a 45 ans et il n'envisage pas une seule seconde l'échec.
C'est difficile hein, quand on s'attaque à ce genre de choses. J'ai tellement un but qui est d'arriver que ma terreur, ce serait de ne pas arriver. C'est pas une peur de ce qu'il y a entre les deux, c'est une peur de ne pas réussir à atteindre l'objectif que je me suis fixé. Mais les risques, évidemment, sont liés au temps. Hein.
Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Les tempêtes, la pluie, le vent, le soleil?
Bon, la pluie et le soleil ne sont que désagréables, le vent est redoutable quand on l'a dans le nez, parce qu'on n'avance plus. Mais évidemment, les tempêtes, donc la mer, c'est ça qui est le plus dangereux pour un bateau qui est très petit, qui traverse sur l'eau.
Pas de problème de solitude?
Vous savez, la solitude, c'est sûr que ça n'arrange rien, c'est plutôt un facteur aggravant qui fait que quand on a froid, on a plus froid, un peu plus. Quand on est un peu misérable et qu'on est tout seul, on se sent un peu plus misérable, mais enfin, à part ça... quand même que c'est plus facile de faire une traversée tout seul que à deux.
Et c'est parti. Le 10 juillet 1991, Gérard d'Aboville quitte le Japon sur son bateau à rame, direction les États-Unis. Pendant des semaines, silence radio. Il est concentré sur son objectif, il préfère ne pas communiquer. Il ne sort de son silence que 3 mois plus tard, pour son 100e jour de navigation.
Ah, ce Pacifique, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que l'Atlantique. Je m'en rends compte tous les jours. J'ai du mauvais temps très souvent. Une mer beaucoup plus creuse. Il suffit de compter les chavirages. J'ai chaviré 5 fois sur l'Atlantique. J'en suis à pratiquement 25 maintenant. Ça reste toujours ma hantise de rester un jour coincé avec le bateau comme une tortue sur le dos. Et puis il y a la longueur, hein, la distance, c'est quelque chose d'inimaginable. Tout ça est monstrueux.
Et ce qui est monstrueux aussi, c'est la solitude. Se retrouver seul face à soi-même.
Alors évidemment, la solitude, c'est le pire. Hein. C'est le facteur aggravant de tout. Ça augmente la crainte, ça augmente l'apitoiement sur soi-même, qui est le gros danger dans ce genre de traversée. J'aime pas la foule, hein, mais malgré tout, on est quand même pas fait pour supporter des gros
Mais qu'importe, il continue de ramer. Nouvelle interview le 12 novembre 1991. En principe, il lui reste 8 jours à ramer pour arriver en Californie. Et il en a plein le dos.
En ce moment, j'avance bien, alors tout va très bien, mais je fatigue. Hein. J'en ai un petit peu marre, quoi. J'ai trop hâte d'arriver et je ne dors plus la nuit parce que j'ai froid et parce que je suis impatient d'arriver. C'est dur en ce moment, c'est dur parce que, bah, je sais pas, je crois que je commence à sentir le poids de la traversée. Et je fatigue, c'est tout. Peut-être aussi l'impression que ça va peut-être bientôt se terminer. Alors je suis un petit peu trop impatient, un peu trop fébrile. Et ça rend les minutes encore plus longues. Bah, le gros problème aussi, c'est la saison. Hein. On est maintenant, c'est un temps d'hiver et c'est pas du tout la même chose. L'hiver, c'est deux fois plus dur que l'été.
Et puis 6 jours plus tard, à 48 heures de l'arrivée aux États-Unis, c'est la tuile. Le navigateur se retrouve au cœur d'une tempête d'une violence inouïe.
Malmené par des déferlantes de 8 à 10 mètres, Gérard Deboville a chaviré 3 fois. La troisième fois, il n'a pas été roulé par les vagues, mais le canot est passé cul par-dessus tête et Deboville s'est blessé au visage. Quand, dans l'après-midi d'hier, le vent s'est un peu calmé et qu'il a pu sortir de sa cabine étanche, avec sa barbe de 10 jours et son visage sanguinolent, il ressemblait à un rescapé, un revenant sorti d'un film d'épouvante.
Maintenant, Gérard Deboville n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres de la Californie. Mais il vit les pires moments de sa traversée. L'embouchure de la Columbia, où les vents et les courants l'ont projeté, est un accès extrêmement difficile. On y a recensé plus de 2000 naufrages.
Devant cette ultime difficulté, certains ont essayé de convaincre Gérard Deboville de ne pas aller plus loin, de se laisser hisser à bord d'un bateau de Coast Guard, estimant qu'il avait atteint son but. Mais lui reste le plus lucide. Il sait bien que l'Everest n'est pas vaincu à 100 mètres du sommet. Deboville veut ramer jusqu'en Amérique. Astoria, Gérard Fusilly, Europe 1.
Après 134 jours de solitude et 44 chavirages, Gérard Deboville a trop souffert pour ne pas mener son défi jusqu'au bout. Alors il affronte cette ultime difficulté. Et il y parvient. Le 20 novembre 1991, Gérard Deboville est tout sourire dans le journal de 6h du matin sur Europe 1.
J'ai eu beaucoup de chance, plusieurs fois le bateau a été entièrement submergé, mais j'ai pas chaviré, donc tant mieux. Je suis pas très loin de l'arrivée, alors évidemment, moralement ça m'aide. Ce qui est difficile maintenant, c'est de donner une date, et je sais que c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de gens qui m'attendent à l'arrivée. Et moi-même, ben, je serais content de pouvoir dire j'arrive le 22 ou le 24, mais hélas, j'en suis complètement incapable. Mais enfin, sur le plan moral, je sais que j'arrive, hein, c'est quand même agréable.
Et finalement, le 21 novembre 91, Gérard Deboville boucle officiellement sa traversée. Et à son arrivée, bien entendu, il est assailli de questions.
C'est un bonheur et un vide. J'ai vécu avec un objectif comme ça. Maintenant, je ne sais plus. Pourquoi tu dis que ça a été beaucoup plus dur? Tu as craint de ne pas y arriver? Oh, j'ai surtout craint d'y rester, oui. Plusieurs fois. Mais bah, j'ose le dire, si j'avais su que c'était aussi dur, je pense pas que j'aurais tenté. On dit que c'est surhumain, tu penses aussi que ça a été surhumain? Non, je suis un humain, mais faut le faire, quoi. T'as changé? Bah, j'ai perdu quelques kilos et quelques cheveux, hein, mais à part ça, non, dans quelques jours, ça ira, je serai comme avant. T'es heureux d'être là. Ah oui. Tu as vécu plein de choses, tu as beaucoup d'histoires à raconter, ou tu as l'impression que c'était un intermède. J'ai pas vécu tellement de choses, j'ai vécu avec un seul but, avec une fureur d'arrivée, avec... Et c'est tout. Tout le temps. Jour et nuit, je me réveillais en y pensant. Mon principe, c'est être toi, et tu n'auras pas besoin de demander au ciel qu'il t'aide, mais là, je pense qu'il m'a un peu aidé. Here we are.
Lenny Kravitz avec son tube de 1991, It Ain't Over Till It's Over.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
En février 1991, ça fait 5 ans que la Grande-Bretagne fait face à une épidémie de vaches folles. Et voilà qu'on détecte un premier cas en France à Ploua, dans les Côtes d'Armor, chez une vache laitière.
Ploua, dans les Côtes d'Armor, c'est ici qu'un bovin de la race Frison a succombé à la maladie de la vache folle, premier cas en France. L'animal avait du sang britannique dans les veines, son arrière-grand-mère était d'origine anglaise, mais ce ne serait qu'une coïncidence. La maladie n'est pas héréditaire, elle se transmet par voie orale. Les chercheurs ont établi avec certitude que les 10 000 vaches britanniques touchées avaient consommé des particules de mouton atteint de la tremblante.
La vache folle est une infection dégénérative du système nerveux des bovins et elle serait due à l'utilisation pour leur alimentation de farine fabriquée à partir de cadavres d'animaux. Mais depuis 2 ans, ces farines ne sont plus utilisées en France. Alors en Bretagne, eh bien, on reste optimiste.
La nouvelle a pris ce matin à la radio a jeté un froid chez les éleveurs bretons. Jean Salmon, président de la FDSEA des Côtes d'Armor.
On n'avait pas besoin de ça, c'est sûr. Dire qu'on est mal parti, je vous dis, faut pas non plus paniquer, parce que bon, il y a un cas. Le problème est de savoir si c'est un cas, enfin, si c'est un cas isolé, c'est pas très grave. Si dans les jours et les semaines qui viennent, on devait se payer une épidémie, alors là, ce serait effectivement très grave.
1 million de bêtes dans les Côtes d'Armor, 7 millions de têtes dans les 4 départements bretons, le tiers de la production française. Combien sont touchés? Question pour l'heure sans réponse. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe 1.
2 jours après la découverte de ce premier cas, Jacques Adroit, qui est directeur du service vétérinaire, est l'invité de Stéphane Paoli sur Europe 1. Il est confiant.
J'exclus le mot épidémie. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, lorsque un cheptel est atteint, sur un cheptel de 50 vaches, il y a 2-3 cas cliniques, pas plus que ça.
En 1991, on ignore encore beaucoup de choses au sujet de cette infection, de ses causes et de la manière dont elle peut se propager. Mais selon Jacques Adroit, la France n'est pas la Grande-Bretagne et l'on ne vivra pas l'épidémie anglaise et ses 30 000 cas.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions qui ont été rapportées et que je cautionne dans l'ensemble ne sont pas du tout la même chose en France. Pourquoi ? Un, parce que les farines fabriquées en France, qui sont quelquefois additionnées aux aliments de ruminants, le sont dans des proportions bien moindres qu'en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il n'est pas rare de voir une ration avec 10% d'ajout de farine animale. Deuxième cas, les origines de génisses. On a reçu quelques génisses britanniques qui ont pu, depuis 2 ans, incuber. Alors, nous sommes en période de surveillance du territoire, très attentifs, on a monté ça depuis plusieurs mois. Je ne veux pas être un mauvais prophète, mais enfin, disons que nous aurons éventuellement quelques cas ici et là, mais que l'on pourra maîtriser.
Et pourtant, un mois plus tard, une deuxième vache folle est détectée au Tate de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et en avril, une troisième dans la Manche. Et en mai, une quatrième dans le Finistère.
Ce nouveau cas de vache folle a été détecté le 24 mai dernier dans cette ferme de Quéménévin, dans le sud Finistère. Un seul animal sur les 75 que compte l'élevage a été atteint et aussitôt abattu. Sa tête a été envoyée au laboratoire du Centre National d'Études Vétérinaires de Lyon qui a confirmé l'encéphalopathie spongiforme bovine, autrement dit la maladie de vache folle.
À ce moment-là, se pose une question. Cette maladie de la vache folle peut-elle se transmettre à l'homme?
Comme les scientifiques l'ont démontré, la contagiosité à l'espèce humaine et à l'espèce bovine est maintenant assurément non. Pas de contagiosité, pas de panique au niveau de cette maladie qu'il faut traiter d'un point de vue strictement économique, eu égard les risques sanitaires et hygiéniques nuls dans la contagiosité de cette maladie.
Eh bien, c'est faux. 5 ans plus tard, 1 millier de bêtes seront contaminées et on découvrira que la maladie se transmet bien à l'homme par l'ingurgitation de la viande bovine. Chez l'homme, on va parler de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et en France, 25 personnes vont mourir de cette maladie. Prince, avec son titre Cream.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1991.
Le 2 mars 1991, vers 23h, Bambou, la compagne de Serge Gainsbourg, s'inquiète qu'il ne réponde pas à ses appels téléphoniques, ni à ses coups de sonnette. Alors Bambou finit par appeler la police, et les pompiers passent par une fenêtre, et ils découvrent Gainsbourg mort. Il a succombé à une crise cardiaque.
Des barrières ont été posées par la police à chaque extrémité de la rue. Des badauds, des passants émus se sont approchés, comme ce chauffeur de taxi qu'on disait parfois Serge Gainsbourg.
Bah, c'est un client, on s'est disputé pour l'avoir. Quel souvenir vous garderez de lui comme client, comme chanteur? Il m'a rappelé un petit peu Coluche. Je lui avais apporté un bouquet de fleurs. Oui, un petit bouquet.
Serge Gainsbourg avait déjà eu 2 alertes cardiaques, dont la dernière en 1989. Et depuis quelques mois, il était très amaigri. Bambou, Charlotte et son neveu l'ont veillé toute la nuit. Pas de défilé de stars du showbiz, rue de Verneuil, pas d'allées et venues. Quelques lumières allumées, quelques voitures qui passent. Serge Gainsbourg s'est éteint discrètement un samedi soir à Saint-Germain-des-Prés. Rue de Verneuil, Philippe Berthier, Europe 1.
5 jours plus tard, Pascal Clark assiste pour Europe 1 aux funérailles de Serge Gainsbourg.
À l'intérieur du cimetière, un parterre de personnalités réunies pour un douloureux spectacle. 3 belles qui ont chanté Gainsbourg, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Françoise Hardy, d'autres artistes, Alain Souchon, Alain Chamfort, Renaud, Johnny aussi est venu. Et puis juste ce qu'il faut d'officiel, les ministres Jack Lang et Catherine Tasca, ainsi que l'épouse de Michel Rocard. Sobre cérémonie, Catherine Deneuve lit le texte d'une chanson de Gainsbourg écrite pour Jane, « Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve ». Alain Souchon souligne la simplicité de l'hommage.
C'était très simple, oui, très... Tout le monde était ému, puis il faisait beau, puis c'était très calme et très beau. Il y avait des fleurs blanches.
Le public est alors admis par petits groupes à l'intérieur du cimetière. On a enterré Gainsbourg. Gainsbourg reste dans les mémoires.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré. Vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dit qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut, le soleil above, radieux.
À l'issue de la cérémonie, Europe 1 tend son micro au badaud venu rendre hommage à Gainsbourg, une foule sacrément bigarrée.
J'utiliserai un jeu de mots assez facile, disons que la mort physique n'est pas sans issue justement. On s'est déplacé, il faut savoir, comme disait Serge, savoir s'étendre sans se répandre. Donc on passe et on repassera de toute façon de voir.
Bon, on va voir Gainsbourg, on n'a pas le pleur. On va lui donner un ticket de métro avec un petit trou. Un petit trou, toujours un petit trou.
Moi je suis venu par respect, c'est moi qui ai déposé le ticket de métro sur son cercueil malheureusement. J'ai pleuré, ils m'ont rien dit. Et puis bon, aujourd'hui c'est un aller-retour que j'y amène. Un petit trou, j'ai mordu dedans. Et j'ai amené une gitane. Mais Au revoir, Serge.
Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux.
8 mois plus tard, disparaît un autre monstre de la chanson française, Yves Montand.
Europe 1, 16h23, un flash spécial, Jean-Jacques Lachaud.
Un flash spécial pour vous annoncer la mort d'Yves Montand. L'acteur et chanteur Yves Montand s'est éteint il y a 2 heures maintenant à l'hôpital de Senlis où il avait été transporté cette nuit à la suite d'un malaise cardiaque. Yves Montand est mort, il était âgé de 70 ans. À 16h30, nous vous donnerons les derniers développements sur cette information qu'Europe 1 vous annonce à 16h23. Yves Montand est mort.
Je suis complètement désolé, je suis navré parce que vraiment Yves Montand était un monsieur qui a un petit peu bercé notre enfance. Et j'ai toujours admiré Yves Montand. Je regrette qu'une chose, c'est que j'avais pris des places, je devais aller le voir à Bercy. Et finalement, ben, je suis vraiment effondré.
Et dans la foulée de l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient.
Je crois qu'il incarne tout à fait ce mythe. Il est un des grands qui vient de disparaître encore. Il en reste de moins en moins. Je trouve ça tout à fait dommageable.
Ça me touche très fort parce que je trouve que c'était un gars qui représentait bien l'esprit de toute une génération.
C'est vrai que ça a été ma jeunesse et que je l'ai beaucoup aimé.
Tout le monde est toujours surpris par la mort, malheureusement. Enfin, je pense que pour lui, c'est peut-être une bonne mort. Il ne fallait pas qu'il vieillisse trop. Ce n'était pas un homme fait pour la vieillesse.
Yves Montand repose au cimetière du Père Lachaise aux côtés de la seule femme qu'il ait épousée, Simone Signoret.
Le couple Montand-Signoret, 40 ans de vie commune, le couple français le plus célèbre à une époque, ce couple est maintenant uni pour toujours. Une tombe simple de marbre beige avec leurs deux noms dans la division 44 du cimetière du Père Lachaise. Ni éloge, ni discours, mais une impressionnante quantité de gerbes, dont celle du président de la République, et la foule des amis d'abord, des personnalités de la chanson et du cinéma qui ont à leur tour déposé une rose. Catherine Deneuve, l'amie, la complice de plusieurs films, ne retient pas son émotion au micro de Laurence Ferrari.
On n'a pas envie de rendre un hommage à quelqu'un qui est encore si vivant, franchement. C'est pas un hommage qu'on a envie de lui rendre, c'est que c'est vrai que c'est inimaginable, d'abord parce que je trouve que c'était un homme jeune, puis c'est un homme qui a une voix inoubliable, et que c'est heureusement quelque chose qui permettra de le garder très 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 longtemps.
1991, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1991, les douaniers sont intrigués par une entreprise qui s'appelle la Chimitique. Elle est implantée dans une zone industrielle de Champigny, en région parisienne. Premier réflexe des douaniers, un petit tour par le Minitel pour se rencarder.
Christian Houzet, inspecteur à la direction des enquêtes douanières.
Là, vous trouvez sur le Minitel toutes les caractéristiques de toutes les sociétés françaises. Nous avons découvert par là même la Chimitique, installée à Champigny, dans une zone industrielle, avec une activité qui apparaissait tout, bizarre au départ. Bizarre parce que pas de numéro d'INSEE, un registre de commerce inexistant, une activité chimique qui n'existait pas non plus.
Et les douaniers tiquent sur un détail. Cette entreprise affiche une consommation d'eau et d'électricité faramineuse. Les policiers et les douaniers suivent le manège de cette entreprise pendant des mois. Après filature et enquête de voisinage, ils finissent par comprendre ce qui s'y trame. L'usine fabrique des pilules d'ecstasy. La drogue à la mode, une amphétamine surnommée pilule de l'amour pour ses vertus aphrodisiaques. Et après des mois d'enquête, top interpellation.
Les douaniers et les policiers de l'Office central des stupéfiants sont passés à l'action. Le 26 juillet dernier, une voiture est arrêtée au péage de Senlis. À l'intérieur du véhicule, qui s'apprêtait à passer en Belgique, les douaniers découvrent 1,8 kg de poudre pure, de quoi fabriquer 18 000 pilules d'ecstasy. S'ensuit une perquisition dans le laboratoire de Champigny, où les policiers découvrent entre 6 et 9 kg du même produit. Le passeur belge et deux chimistes, un couple d'ingénieurs jusque-là inconnus des services de police, ont été arrêtés et écroués.
Michel Richardot, le patron de l'Office central des stupéfiants, se félicite de ce coup de filet. Une telle prise d'ecstasy est une grande première en France.
L'ecstasy est un produit dont on parle beaucoup, mais qui était finalement peu découvert en France. C'est un stimulant et qui crée une accoutumance. Donc en fait, elle a des effets qu'on ne peut pas comparer aux effets de l'héroïne, mais qui peuvent avoir les mêmes conséquences que l'héroïne. C'est une drogue qui restait jusqu'à aujourd'hui confidentielle, peu répandue, peu finalement prisée par nos toxicomanes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des quantités fabuleuses peuvent être découvertes sur le marché européen.
Et au fait, qui était derrière cette usine d'ecstasy ? Eh bien, un couple d'ingénieurs chimistes, la petite soixantaine, sans casier judiciaire. Autrement dit, monsieur, madame, tout le monde.
Mais enfin, madame, je pige pas pourquoi vous vous êtes embarqué dans la fabrication de drogue. C'est risqué. Et c'est illégal. Ah, monsieur, on a beau être ingénieur chimiste, nous, on en voulait plus. Hein. On voulait faire fortune. Alors, il y avait l'ecstasy. On écoulait ça à 250 francs la pilule.
En un an, le couple de chimistes a produit plus de 200 000 pilules. Multiplié par 250 francs, ça fait 50 millions de francs, 12 millions d'euros d'aujourd'hui. C'était Shiny Happy People du groupe REM qui conclut notre quatrième épisode. Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski m'ont aidé à l'écrire. La suite de notre exploration de l'année 1991 dans le cinquième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.